France Musique.
Bah, qu'est-ce que tu pêches ?
La musique.
Ah bah voilà une drôle d'idée.
Ça doit être un musicien.
C'est le 20e siècle qui a fait de Vivaldi le monstre sacré de Venise.
Un nom inouï qui fait penser à un sursaut de la vie, comme sa musique aussi.
Et tout d'un coup, j'ai entendu cette musique que j'ignorais absolument. Et j'ai été envoûtée.
S'il y a une beauté, elle va réapparaître à un certain moment.
Je suis Antonio Vivaldi.
Venise, cette ville en perpétuelle recherche de nouveautés, impose au créateur un rythme effréné. Si Vivaldi a su pendant de nombreuses années participer avec succès à cette course délirante, durant les deux dernières années de sa vie, sa santé se dégrade de jour en jour et le ralentit. Sans pour autant se départir de sa fiévreuse ambition, il quitte sa Venise natale pour Vienne. Sans doute espère-t-il une dernière fois pouvoir entrer dans la danse.
Cinquième épisode. Antonio Vivaldi, l'exil sans retour.
Sylvie Mamy, musicologue.
Dans les années 1730-1735, Vivaldi était quelqu'un qui était en train de passer de mode dans sa ville. Nous basculons vers un monde nouveau par l'arrivée de ces musiques napolitaines, peut-être plus moderne, avec des gens comme Pergolèse, Porpora, Leonardo Vinci, Leonardo Leo, qui déjà se tournaient vers le drama giocoso, vers des choses qui correspondront de plus en plus à l'évolution sociale, c'est-à-dire que la musique sort des grands palais, des classes aristocratiques, pour devenir un art populaire. À ce moment-là, est-ce que Vivaldi a su vraiment s'adapter à cette évolution? Je suis pas certaine. Il avait une originalité qui lui était propre, unique, mais qui correspondait pas forcément à la mode telle qu'elle était en train d'évoluer.
Fabio Biondi, violoniste et chef d'orchestre.
On voit ce désir de survivre à un style musical assez dominant qui vient de Naples. C'est une façon composée d'écrire complètement étrange pour les compositeurs de la vieille école baroque et pour lequel il n'est pas préparé. Donc je dirais que dans le manque d'attention du public vénétien italien, donc dans son coucher de soleil, il pense à un lieu géographique qui était encore fidèle à lui. Et donc il quitte Venise et il va dans la direction de l'Est, donc vers Vienne avec l'empereur qui était quand même fidèle. Et toute cette partie d'Europe qui était encore passionnée par sa musique.
J'aurais pu rester mourir à Venise, mais j'ai encore tellement d'opéras à composer.
C'est à Vienne que je suis reconnu. Ma véritable vie d'artiste commence demain.
Patrick Barbier, historien de la musique.
L'empereur d'Autriche, Charles VI, c'est un mélomane extraordinaire et un très grand musicien. C'est le grand-père de Marie-Antoinette, et donc le père de la fameuse impératrice Marie-Thérèse. Et c'est un homme qui dirige l'orchestre à la cour, qui peut improviser n'importe quelle partition pour le clavecin qu'on lui met sous les yeux et il peut accompagner un opéra entier. C'est un homme qui se prend un peu comme un grand mécène musical. Donc il est fort possible, et même assez évident, qu'on lui a fait des propositions pour venir à Vienne. Et tout ça arrive dans une période où Vivaldi est relativement, surtout les dernières années, un peu en difficulté à Venise. Et l'idée d'aller à Vienne, surtout si on lui a fait miroiter un poste important à la cour, un maître de chapelle, ce qu'on ne sait pas exactement. Mais il faut qu'il y ait eu quelque chose pour qu'il décide de quitter Venise. Moi, j'ai toujours pensé qu'il quittait Venise en faisant un peu un pied de nez aux Vénitiens. C'est une manière de dire, bah, vous ne me méritez pas. Vous m'avez fait des crasses, et bien maintenant, ciao, je vous ai assez vu et je vais chercher fortune ailleurs.
Olivier Forès, musicologue.
Il part à Vienne en espérant trouver un poste là-bas et rétablir un peu cette situation. Malheureusement, pendant le voyage qu'il fait à Vienne, l'empereur mange des champignons et s'empoisonne et meurt. Donc quand Vivaldi arrive à Vienne, c'est le désastre. On est en plein moment de succession, il n'y a plus du tout de situation politique stable.
Sylvie Mamy.
Charles VI, l'empereur, s'il n'était pas décédé, aurait pu sûrement lui offrir une position confortable au plan financier, au plan de confort de logement, ce qu'il n'a pas eu.
Patrick Barbier.
Quand un empereur meurt, ça veut dire déjà vous avez des mois de deuil où il n'y a pas de spectacle, où il n'y a pas d'opéra. C'est vraiment ce qu'on appelle le mauvais moment. Et puis, probablement, Vivaldi n'a pas de commande non plus. C'est un homme qui a vécu, voilà, très bien, mais sans plus, et qui n'a certainement pas beaucoup de réserves. Donc, ces réserves, en quelque sorte, ont dû s'épuiser très rapidement. Si vous n'avez pas de commande, si vous n'avez pas de proposition, et surtout si vous n'avez pas de poste, ben évidemment, la vie doit être très très difficile.
La disparition de Charles VI signe pour Vivaldi l'évanouissement de ses ultimes projets. Il frappe très certainement à la porte du théâtre du Kärntner Tor, distingué comme le théâtre privilégié de Sa Majesté, espérant pouvoir y faire représenter ses tout derniers opéras, mais ce séjour viennois sera un éternel rendez-vous manqué. Épuisé par cette maladie respiratoire avec laquelle il a dû composer toute sa vie, Vivaldi meurt moins d'un an après son arrivée, dans la misère la plus totale. En guise d'hommage, on trouve ce trop bref épitaphe dans un journal viennois datant du 2 août 1741.
Le 28 juillet dans notre ville, le très révérend signor Antonius Vivaldi, prêtre séculier, dans la maison Valéris, près de la porte de Carinthy, est déclaré mort à l'âge de 63 ans.
Olivier Fourès.
Il meurt à la fin du mois de juillet, apparemment d'une inner brand, c'est-à-dire une inflammation interne qui pourrait être liée à la maladie qu'il a eue depuis toujours, c'est-à-dire une malformation des poumons qui est associée souvent à de l'asthme, etc.
Il est décédé dans un tout petit logement modeste qui se trouvait près du théâtre du Kärntner Tor. On sait dans quel appartement est décédé Vivaldi. C'est une maison qui n'existe plus. Ses funérailles ont eu lieu dans un cimetière de pauvres qui était tout proche de cet appartement.
Il est enterré très rapidement parce qu'en même temps c'est l'été, il était seul à Vienne, donc on ne pouvait pas non plus laisser un cadavre comme ça que personne ne réclamait grosso modo, donc peut-être aussi il a été évacué de la façon la plus pratique.
Patrick Barbier.
Il meurt probablement vraiment très démuni, dans la plus grande solitude, me semble-t-il. On le voit par la cérémonie qu'il a eue à la cathédrale Saint-Étienne. Une cérémonie vraiment extrêmement basique, puisque le journal dit qu'il a eu le glas simple. Vous savez, les cloches qui sont vraiment pour les pauvres. Hein. Et puis une fosse commune dans le cimetière qui n'existe plus aujourd'hui, qui est là où se trouve la Karlskirche, l'église Saint-Charles à Vienne. Eh bien, là, sur le côté droit de l'église se trouvait un cimetière totalement disparu aujourd'hui, donc il n'y a plus aucune trace de sa tombe.
Le fait qu'on n'a pas une tombe pour pleurer sur son corps, ça fait partie un peu du 18e siècle, et au fond, il faut penser à la mort de Mozart, d'autres compositeurs.
Fabio Biondi.
C'est tout à fait naturel que sans argent et surtout enterré dans un cimetière qui était un cimetière de pauvres, on a perdu son corps. Mais je dirais le grand mystère reste le manque de communication entre lui et la communauté italienne. La communauté italienne à Vienne était nombreuse et très liée à la musique. Il faut penser que Metastasio était là et certains compositeurs sont été là. Comment expliquer cet abandon total que personne a participé à les dernières semaines de la vie d'un compositeur qui quand même était un compositeur populaire?
L'abbé Antonio Vivaldi, incomparable virtuose du violon, dit le prêtre Roux, très estimé pour ses compositions et concertos, avait gagné en un temps plus de 50 000 ducats, mais sa prodigalité désordonnée l'a fait mourir pauvre, à Vienne.
À Venise, seules ces trois lignes d'une petite gazette seront consacrées à la disparition du prêtre Roux. On y parle de sa virtuosité, de son goût pour l'argent, de sa prolixité et enfin de sa chute dans la misère. Mais à Venise, mieux vaut être sifflé qu'ignoré. De Vivaldi, il reste alors ses femmes qui l'ont aidé à bâtir son personnage. Anna Giro, mais surtout les orphelines de la Pietà, devenues au fil des ans comme une deuxième famille.
Ce que provoque la mort de Vivaldi à Venise, on va surtout le voir à la Pietà. Les filles avec qui il a travaillé 40 ans d'affilée, d'une certaine façon, vont lui rendre hommage. Elles vont déjà continuer à jouer ses œuvres pendant pas mal d'années après sa mort, ce qui normalement à la Pietà ne se fait pas, on joue des œuvres contemporaines. Et puis surtout, on voit que dans l'église, la nouvelle église de la Pietà, celle que Vivaldi n'a pas connue et qui a été faite une dizaine d'années après sa mort, on voit sur la fresque qui est sur le plafond, derrière des ailes d'ange, on voit un visage avec un violon qui regarde droit sur les cantoriers où chantaient et jouaient les filles. Donc on suppose que ce sont les filles elles-mêmes et les gouverneurs de la Pietà qui ont souhaité lui rendre un hommage et lui restituer sa présence dans ce temple musical.
Ce n'est qu'un mois après sa mort que la famille Vivaldi apprend la terrible nouvelle. Quelques jours plus tard, ses sœurs sollicitent les autorités judiciaires afin d'apposer les scellés sur sa maison vénitienne dans le but de dresser un inventaire de ses biens. Il s'agit là d'une pratique usuelle afin d'éviter toute spéculation frauduleuse d'éventuels créanciers.
Le frère et les deux sœurs, qui ne sont jamais mariées, étaient tous dans la maison que Vivaldi a quittée pour aller à Vienne.
Suzanne Orlando, musicologue.
Donc logiquement, là, il avait toutes ses partitions et il y avait ses instruments, des lutrins, enfin des choses qu'un musicien a normalement. Il est mort en juillet et en septembre, la maison a été saisie par la ville parce qu'il avait des créanciers. Et on a encore le document avec la liste de ceux qui avaient été trouvés dans la maison. Il n'y avait plus un seul instrument de musique, pas un seul papier de musique, pas un lutrin. Il y avait deux armoires vides, rien d'autre. Donc, on imagine que ce frère et les deux sœurs ont toutes sorti de la maison pour le vendre, parce que ça, c'était le revenu pour cette famille.
Sylvie Mami.
C'est le frère Francesco qui a sauvé de la perte finale 27 volumes de manuscrits autographes de Vivaldi et les a remis à un sénateur à Venise, Soranzo, qui est un collectionneur, qui les a rachetés. Et ce sont ces manuscrits qu'on a retrouvés beaucoup plus tard dans les années 1926-1930 dans le fond de la bibliothèque de Turin.
C'est là a commencé petit à petit cette renaissance d'Antonio Vivaldi et jusqu'à où on est aujourd'hui. Normalement, on n'a pas la musique d'un compositeur du XVIIIe siècle intact comme ça. C'est dispersé tout de suite, un peu partout. Ça tombe dans les mains des antiquaires et c'est fini.
Il faut se dire qu'à l'époque baroque, aucune œuvre n'est faite pour durer et aucun compositeur ne prétend passer à la postérité. On n'y pense même pas. L'œuvre meurt avec son compositeur. C'est comme ça. Bon, alors après, évidemment, il y a quelques exceptions. C'est le cas notamment du Stabat Mater de Pergolèse, qui est tout de suite devenu un must en travers l'Europe, alors que ça n'est pas du tout dans les habitudes de l'époque. Donc, les œuvres de l'époque, elles ont toutes plus ou moins disparu. Et les compositeurs aussi. La notoriété de Vivaldi pose problème, parce qu'en fait, quand on regarde les mémoires et les lettres et les correspondances des étrangers bien informés sur le plan musical qui viennent à Venise, ils n'en parlent pas tellement, pas tant que ça. Et ils n'en parlent pas beaucoup plus que d'autres compositeurs de l'époque. Il est populaire, mais comme plein d'autres.
Fabio Biondi.
Quand Vivaldi est mort, il avait déjà ce sentiment d'être oublié, cette idée de ne pas être évoqué à partir du jour d'après. Ça devait être quelque chose d'extrêmement angoissant. Je l'imagine comme quelque chose de terrible. Vivaldi a été considéré vraiment le plus grand violoniste italien au début du 18e. Et par contre, après sa mort, n'était pas du tout populaire. À la fin du 18e siècle, sa musique était rejetée parce qu'elle considérait déjà hors de la mode. Et tout le 19e a oublié complètement Vivaldi. Et ça, être oublié de cette façon tellement brutale, c'est évident qu'il ne la méritait pas.
Léonore de Répondeau, écrivaine.
Pourquoi, tout d'un coup, dans la première moitié du XXe siècle, cet Antonio Vivaldi va ressurgir alors qu'on l'a oublié ?
Alors, j'ai aucune explication, à part le fait que c'est un merveilleux compositeur.
Amandine Beyer, violoniste.
Je pense qu'il a un mélange que peut-être peu sont arrivés à obtenir, c'est-à-dire une musique d'une qualité extrême, mais en même temps très abordable. Il y a ce côté naturel. C'est quelqu'un qui ne va jamais nous faire mal, qui peut nous parler de la douleur, mais qui ne va pas vouloir nous blesser, qui peut nous parler de la profondeur, mais qui ne va pas vouloir nous perdre. C'est un compositeur qui souvent nous tient par la... Enfin, moi, il me tient par la main et il m'amène partout, mais il est là, il ne me laisse pas toute seule.
Finalement, c'est le XXe siècle qui a fait de Vivaldi le monstre sacré de Venise. Il a fallu attendre les travaux de recherche. Mais c'est vrai que Vivaldi a correspondu à un goût du public au XXe siècle par la variété de ses concertos, par cette espèce de jubilation qui s'en dégage, puis ce prêtre roux un peu quand même hors norme sur le plan de sa vie personnelle. C'est quand même un homme qui a cumulé plein de choses. D'abord, il a quand même été prêtre. Et il est resté prêtre, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, il n'a pas exercé ce métier, mais il est resté prêtre. Il disait la messe en privé pour sa famille. Deuxièmement, c'est un homme qui a été un grand compositeur. Ça, je crois qu'on n'a pas besoin de le dire. Écrivant des centaines d'œuvres et avec une rapidité d'écriture qui est absolument phénoménale. Il écrivait deux partitions en même temps, passait d'un concerto à un autre avec une facilité incroyable. C'est un homme qui a été quand même enseignant, parce qu'il y a 20 années de sa vie qui ont été consacrées à l'enseignement auprès des jeunes filles de la Pietà. C'est un homme qui a été directeur d'un théâtre qu'il a géré avec son père, donc le théâtre qui se trouvait sur les bords du Grand Canal à Venise. Et ça, c'est pas rien d'être directeur de théâtre avec tout ce que ça représente de charges, de responsabilités, d'administration, d'engagement des artistes, de contrats, etc. Il était donc son propre impresario. Mais enfin, il a voyagé, pas très très loin, mais enfin, il a voyagé en tout cas pas mal dans la péninsule italienne pour aller dans les théâtres, faire représenter ses ouvrages, etc.
Suzanne Orlando.
Il a écrit des centaines et des centaines de pages de musique de tout genre. Opéra, musique sacrée, instrumentale. Il y en a un peu des compositeurs qui travaillent dans les trois domaines. Donc il nous a laissé, grâce à cette partition, un trésor immense.
Léonore de Répondeau.
Je pense qu'il y a quand même une forme de justice. À un certain moment, s'il y a une œuvre et qu'il y a une beauté, elle va réapparaître. Ce qui aide aussi, c'est qu'une grande partie de sa musique est publiée, est éditée. Donc ça, c'est quand même un point fort pour lui, parce que évidemment, beaucoup de compositeurs écrivaient sans forcément être édités.
Comment c'est possible que Vivaldi reste tellement vivant dans une société si loin du contexte social, littéraire du 18e italien, parce que, en fait, cette vitalité reste extrêmement moderne. La musique de Vivaldi, même la plus conventionnelle et la plus routinière, est plein d'un effet que je trouve extrêmement fort aussi pour une société moderne comme la nôtre. Il y a cette espèce d'enthousiasme perpétuel fait par la rythmique, fait par le virtuosisme, et d'une certaine manière aussi pour certaines mélodies vraiment émouvantes qui restent pour le moment assez modernes.
Amandine Beyer.
À qui je le comparerais. Je ne sais pas pourquoi, juste là, il me vient Gainsbourg, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu pour la liberté de discours et peut-être pour le besoin d'amour. Je pense aussi, peut-être parce qu'il me vient quelque chose de très visuel. Donc, quelqu'un comme Banksy, c'est voilà, des gens très libres et qui peuvent, d'une manière très universelle, avec seulement un graffiti ou une peinture, exprimer énormément de choses. Et aussi, il y a ce côté très populaire et quand même très éphémère que j'aime beaucoup dans le graffiti. C'est-à-dire que ça va être là, ça va rester, mais peut-être pas non plus. Et c'est vraiment un art populaire.
Thomas Dunford, luthiste et théorbiste.
On pense à une musique classique, une musique baroque, mais à l'époque où c'était joué, c'était de la musique contemporaine, c'était de la musique actuelle. Les gens, ils allaient écouter Vivaldi comme ils vont écouter, je sais pas, Lady Gaga ou n'importe quel concert de rock. Et c'était aussi vivant, aussi puissant, c'était leur musique. Et je pense que cette musique, finalement, elle n'a pas besoin d'être dans des carcans et qu'elle peut être accessible à n'importe quelle personne.
J'aimerais bien te faire écouter une musique.
Non, ok, pas de problème. Ça va.
T'appelles comment ?
Fabien. Oui.
C'est des copains à toi ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu entends ?
J'entends du violon, je pense. Parce que c'est une musique c'est assez fort, le violon, c'est quelque chose, ça nous fait penser. Ça me fait réfléchir. Ouais, je trouve que c'est... Souvent dans le rap, par exemple, ils utilisent du violon pour faire des instrumentales, etc. C'est quelque chose qui rend bien le violon, et le piano aussi, je trouve. Ah, ça, c'est un son calme, c'est assez, ça repose. C'est pas vraiment un son pour faire du sport, mais c'est bien aussi. Il faut de tout.
Ça, c'est de la musique pour toi ?
Pas vraiment, mais j'aime bien la musique au départ. Ça met une ambiance un peu... comme si on attendait quelque chose, genre une appréhension ou quelque chose. Genre, un avant-match ou quelque chose qui pour se mettre dans l'ambiance, quoi.
À la fois homme d'église, musicien et homme de théâtre, certains de ses contemporains ont pu lui reprocher de s'être mesuré à trop de genres. Et pourtant, avec quelle virtuosité Vivaldi a manié sa carrière. Véritable incarnation d'une Venise baroque flamboyante, Vivaldi porte une musique dansante, vive, mais aussi profondément spirituelle et liée au théâtre, un langage qui rencontre encore aujourd'hui de nombreux adeptes.
J'ai retravaillé plein de thèmes de musique classique de différentes époques, différents compositeurs.
Tilassine, musicien et compositeur de musique électronique.
J'avais pas cette vision de chef-d'œuvre à démembrer. Le but, c'était de m'amuser avec cette matière qui, dans tous les cas, existe toujours en bon état à côté. De jouer avec, d'avoir une vision moderne et actuelle, de la réinventer, de voir ce qu'on peut en sortir. C'est de l'expérimentation. Petit mouvement de panique un petit peu avant la sortie. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je vais me faire défoncer, peut-être. Je n'avais pas du tout réfléchi à cette hypothèse. Moi, j'étais dans mon truc, je trouvais ça trop cool, je m'amusais, je trouvais que le résultat était intéressant. Et au final, pas du tout. Non, je n'avais pas été... hué, dégommé par des fanatiques de musique classique sur les réseaux sociaux. Tout s'était très bien passé. Au contraire, j'ai été invité à des festivals de musique classique, donc ce qui était assez surprenant et très chouette de voir au final une vraie ouverture d'esprit de la part du milieu de la musique classique.
Si, si, comme ça. Hey, c'est Youssoupha, sur Bon Batac. Mets du volume à ma voix. Qu'ils puissent entendre ce que j'ai à leur dire. Ok, classique. Comme cette boucle de Vivaldi, on se bouge pour se mettre royal avec des royalties. Classique, comme une bavure policière dans le 9-3. La cassure, la misère, les frères veulent croire. Classique, comme l'hypocrisie des gens du showbiz veulent maquer ma poésie. Intérêt oblige. Classique, comme d'annoncer que le hip-hop en France est mort. Alors écoute ce sommaire et t'auras des remords. Classique, comme les fascistes dans les stades, les racistes dans les stades électorales. Les tâches de la morale. Classique, comme la bêtise des technocrates, des intrus qui croient pouvoir juger le rap sans connaître la rue. Classique, la tentation quand le fric commence à manquer et l'impression que l'illicite permet de banquer. Classique, l'amour piège de ces meufs quand tu pèses au début.
Léonore Doré Condo.
Je pense que la musique de Vivaldi, elle va rester parce qu'il y a cette fraîcheur, cette dynamique. C'est une musique quand même très enjouée, très rythmée. On a besoin de cette beauté-là. C'est la trace et la mémoire d'un siècle aussi et d'une ville. Et Vivaldi, il est lié à ces images qu'on a, à cette ville sur l'eau. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'à mon avis, sa musique est exceptionnelle.
Vivaldi reste un mythe absolu.
C'est vrai que dès qu'on dit le nom de Vivaldi, il y a comme un frisson qui s'empare de l'auditoire.
C'est sûr que le public entend le nom de Vivaldi, déjà se met dans une sorte de d'effervescence, parce que je pense que le public sait déjà plus ou moins que quelque chose de surprenant et de fugace, mais en même temps de très brillant va se passer. Et ça, c'est grâce à son talent que Vivaldi arrive à le faire. Mais c'est un compositeur, je trouve, exaltant. Donc, il y a quand même une sorte d'électricité quand on va jouer du Vivaldi. Et elle est déjà là dans la salle, même avant qu'on commence.
Ça m'arrive souvent.
Philippe Jarouski, contre-ténor.
Dès que je prononce le mot Vivaldi, par exemple, pour un bis, à la fin d'un concert, j'entends des « Ah !» Il y a une réaction comme ça, très épidermique. Les gens aiment profondément Vivaldi. Et je pense qu'ils ont l'impression de connaître autant musicalement que notre personnalité. Je me rappelle quand je faisais des récitals de mélodies françaises ou d'autres pièces baroques, on me disait « Oh, moi j'étais venu pour vous entendre dans Vivaldi ». Donc c'est vrai que les gens sont très très demandeurs.
Je pense que Vivaldi plaît encore aujourd'hui parce que, mine de rien, c'est des thèmes assez forts, c'est une mélodie très prenante qui frappe l'esprit. On est sur des mélodies relativement courtes et répétitives, ce qui quand même colle bien avec notre époque. Et en plus, très expressif, très rythmé et explosif. Donc, c'est pas la musique classique barbante. On s'ennuie pas, ça s'envole. Donc, c'est quelque chose totalement en adéquation avec notre époque, en fait. Parce qu'on est sur un format de musique aujourd'hui où on va chercher l'explosion, quelque chose aussi relativement condensé. On n'est pas sur une période de morceaux à la Pink Floyd qui vont traîner 15 minutes. Il faut que ça pète, il faut que ça soit maintenant, il faut que ça nous percute directement, il faut qu'on soit bouleversé par quelque chose. Et Vivaldi marche très bien, je trouve, dans ce sens-là. Ça marche sur des formats très courts sur les réseaux sociaux parce que d'un coup, paf, ça pète et on est pris à la gorge par ce thème. Donc aujourd'hui, ça marche parfaitement.
Vivaldi, il aide à nous inquiéter moins. Je pense que déjà, il devrait être remboursé par la sécurité sociale, comme beaucoup de choses dans la vie qu'ils ne sont pas. C'est peut-être ça qu'on en parle encore à l'heure actuelle. Je trouve que c'est déjà toute une épopée. C'est quand même incroyable qu'il reste si présent dans notre vie et qu'il soit toujours là. Et je lui souhaite une longue vie, mais il l'a déjà. Et de ce pas, eh ben, je vais aller travailler un peu de Vivaldi.
Aussitôt mort, Vivaldi a sombré dans l'oubli pour mieux renaître de ses cendres 2 siècles plus tard et ne plus jamais disparaître. Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'il occupe le devant de la scène et qu'il inspire le monde musical, tout genre confondu. Si certaines parts d'ombre demeurent autour de cette personnalité stupéfiante, celle-ci n'occulte en rien le pouvoir de séduction étonnant que suscite l'entièreté de son œuvre. Le feu vivaldien est bel et bien vibrant. Et fort est à parier que cela n'est pas prêt de s'arrêter.
Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir, une saga de Saskia Deville, réalisée par Davy Travailleur. Lecture, Marc Saez et Guillaume Potier. Collaboration éditoriale et documentation sonore, Aline Billette. Assistance de Lina, Mylène Touchet. Mixage, Mathieu Tourin. Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir est un podcast original de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.